France Inter. 10.
Lundi 18 mars, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Vladimir Poutine réélu à 87%.
Son meilleur résultat choisi pour marquer les esprits. Nous sommes en direct de Moscou dès le début du journal. Dans les collèges, la marche forcée vers la mise en place des groupes d'élèves en 6e et en 5e à la prochaine rentrée. Les étoiles du Michelin dévoilées cet après-midi et la nouvelle série Choc qui ausculte les divisions de la société française. La fièvre, premiers épisodes ce soir.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50. Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous. Le directeur de Sciences Po visé par une affaire de violence conjugale devait-il démissionner? Un amphi de la célèbre école parisienne transformé en meeting pro-palestinien a-t-il été le lieu d'un dérapage antisémite? Sur fond d'embrasement médiatique, Laurence Bertrand d'Orléac préside la fondation nationale qui gère Sciences Po. Elle est chargée de nommer un nouveau directeur. Elle nous dira si cette école est devenue proprement ingouvernable.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui publie mercredi un nouveau livre, La Voix Française, V-O-I-E, c'est chez Flammarion. 9h20, Léa Salamé reçoit, elle, l'actrice Alexandra Lamy.
France Inter.
Il n'y avait finalement que deux inconnus dans ce scrutin présidentiel joué d'avance en Russie, la participation des Russes et le score de Vladimir Poutine. Pour le reste, on savait que les candidats d'opposition avaient été éliminés, les votes surveillés, que Vladimir Poutine, entré au Kremlin à 47 ans et aujourd'hui septuagénaire, repartait pour 6 ans supplémentaires et qu'avec la modification de la constitution qu'il a imposée, il peut diriger la Russie jusqu'en 2036. Alors hier, en fin de soirée, exhibant ses 87%, Vladimir Poutine a promis que la Russie tiendrait tête à tous ses adversaires.
Bien sûr, de nombreuses tâches nous attendent, mais je pense qu'il devient clair pour tout le monde que quiconque et quoi que ce soit ne peut pas nous intimider, ne peut pas nous supprimer notre volonté, notre conscience.
Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Anaïs.
Vous êtes notre correspondant permanent en Russie. Les autorités annoncent une participation record et on revient avec vous sur ce score de 87%. Qu'est-ce que ça signifie ?
Si l'on doit mesurer la dérive autoritaire d'un régime au score électoral de son leader, alors celle-ci est incontestable en Russie ce matin. En 2012, Vladimir Poutine faisait 64%. En 2018, c'était 77%. Hier, avec 87%, le chef du Kremlin est entré dans une autre catégorie, surpassant même son voisin biélorusse, Alexandre Loukachenko, réélu avec seulement 80% des voix en 2020. Le score de Vladimir Poutine ne se rencontre habituellement que dans les dictatures patentées de la région que sont l'Azerbaïdjan ou le Turkménistan, par exemple. Malgré tout, peu d'images, peu de fraudes électorales, de preuves de ces fraudes sont remontées hier, contrairement aux années précédentes. Mais il faut dire qu'il n'y avait plus d'observateurs indépendants cette année, plus d'accès aux caméras dans les bureaux de vote, qui étaient remplis de policiers, qui ne se gênaient absolument pas pour regarder ce que faisaient les électeurs.
Et avec ce score que Vladimir Poutine s'est donc auto-attribué, que peut-il demander au pays, Sylvain ?
C'est toute la question. On a bien compris dans son discours d'hier soir qu'il ne fallait attendre aucun changement de cap. Mais peut-il s'appuyer sur ce score pour demander encore plus d'efforts aux pays engagés dans la guerre en Ukraine, par exemple, en augmentant les impôts? On sait que la trajectoire budgétaire est de plus en plus compliquée à dessiner. En lançant une seconde vague de mobilisation, si le Kremlin, par exemple, n'a pas abandonné l'idée de faire tomber le pouvoir à Kiev. En attendant, la Place Rouge se prépare pour un meeting-concert ce soir pour célébrer les 10 ans de l'annexion de la Crimée, là où la guerre a commencé.
Sylvain Tronchet, merci. En direct de Moscou, Londres et Varsovie parlent de présidentielle ni libre ni équitable. Un mot aussi sur Alexei Navalny, qu'a évoqué le chef du Kremlin dans un discours à la télévision. Il parle d'un événement triste, mais nous avons eu d'autres cas où des personnes en prison sont décédées, explique Vladimir Poutine. Des bombardements et des combats à Gaza en ce moment, aux abords de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand du territoire et dans lequel l'armée israélienne était entrée le 15 novembre. Des témoins sur place parlent d'au moins 45 chars et véhicules blindés israéliens entrés dans le quartier avant l'aube, de drones qui tirent sur les personnes dans les rues près de l'hôpital, un bâtiment en feu après une frappe aérienne. L'armée israélienne par haut-parleur demande aux habitants de rester chez eux. Selon le Hamas, des dizaines de milliers de personnes se trouvent dans l'hôpital. Dans l'actualité internationale encore ce matin, cette négociation au sommet qui s'ouvre aujourd'hui en Jamaïque à propos de l'exploitation minière des fonds marins, ces dernières zones de la planète encore vierges de toute intervention questions humaines, mais va-t-on autoriser les industriels à y installer leurs machines pour y puiser nickel ou cobalt, autant de minerais stratégiques pour la transition énergétique? Seuls quelques des 160 États réunis à Kingston s'y opposent, Célia Kiré.
L'enjeu de ces négociations est de créer ou non un nouveau code minier qui autorise la chasse au trésor dans les abysses, un graal pour les industriels qui n'ont toujours pas la possibilité d'aller puiser ces minerais précieux. Certaines entreprises sont prêtes à aller forer dès 2025. On a l'impression que c'est l'industrie minière elle-même qui a tenu la plume de ce futur code minier, s'alarme Greenpeace. Et pour cause, il n'est plus question dans le texte de protéger des écosystèmes vulnérables, mais plutôt d'accélérer l'exploitation minière. Or, ces fonds regorgent d'espèces méconnues. Des centaines de scientifiques demandent de les préserver. 24 États, dont la France et la Grande-Bretagne, demandent toujours un moratoire pour laisser l'océan tranquille. Mais d'autres, comme la Norvège, de petits États insulaires ou la Chine, portent la voix des industriels. Il faudrait au moins 48 pays opposés pour bloquer cette exploitation minière. On en est loin, regrettent les ONG. Pourtant, cette chasse au trésor est contraire à certains engagements internationaux de préservation de la biodiversité. La décision finale est attendue en 2025, mais déjà une trentaine de contrats d'exploration minière ont été accordés.
Négociations menées par l'Autorité internationale des fonds marins qui vont durer 2 semaines, alors que le chef de l'OTAN rappelle l'importance de lutter contre le changement climatique pour des raisons sécuritaires. Le réchauffement d'Jens Stoltenberg est multiplicateur de crises et nous en voyons les effets partout dans le monde.
Il est 7h07, nouveau casse-tête, Anaïs, à résoudre pour les chefs d'établissement scolaire.
À la prochaine rentrée, il leur faudra mettre en place des groupes en français et en mathématiques selon le niveau des élèves de 6e et de 5e, malgré l'opposition unanime de la communauté éducative. L'arrêté a été publié hier. Alors certes, le mot « groupe de niveau » cher à Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale à l'époque, n'y figure plus. On y parle de groupe constitué en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. À part jouer sur les mots, Sonia Princé, est-ce que ça change quelque chose?
Le changement de vocabulaire ne convainc pas. Les élèves seront toujours répartis selon leur niveau de compétence. Pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du principal syndicat d'enseignants SNES-FSU.
Certes, on ne parle plus de groupe de niveau, mais il est quand même indiqué qu'il y aura le groupe des élèves les plus faibles. Donc, on est bien sur une forme de tri des élèves. Et puis, cet arrêté, il dessine quand même une usine à gaz en termes d'organisation avec un alourdissement de la charge de travail des professeurs. Donc, tout ça est inacceptable et c'est pour ça qu'on va continuer la mobilisation.
Les élèves passeront au maximum un tiers de l'année en classe entière, en français et en mathématiques, ce qui risque de perturber les jeunes collégiens, selon Grégoire Ancel, président de la FCPE, première organisation des parents d'élèves.
Pour des élèves de 6e qui ont déjà beaucoup de mal à s'adapter au collège, à son organisation, ils vont avoir 2 enseignants de mathématiques et de français, une fois un enseignant probablement pendant les groupes et un autre enseignant lorsqu'ils reviendront en classe entière. Et ça fait également exploser le collectif classe qui est très important et très structurant à cet âge en tant que repère.
Les chefs d'établissement, de leur côté, continuent à réclamer des moyens supplémentaires. Les 2300 postes promis pour ce dispositif sont insuffisants pour sa mise en place à la rentrée prochaine.
La ministre de l'Éducation nationale, l'actuelle Nicole Belloubet, est-elle ce matin au collège Édouard Herriot de Chenov, près de Dijon, pour apporter son soutien à la principale, menacée vendredi par un collégien de 15 ans armé d'un couteau. Il a passé la nuit en prison après avoir été mis en examen hier. Il reconnaît les faits, mais en donne encore des versions contradictoires. Lui étant en prison depuis juillet et comparé à partir d'aujourd'hui devant la cour criminelle de Paris, Salim Berada, 38 ans, accusé de viol ou d'agression sexuelle sur 17 femmes avec toujours le même mode opératoire. Il proposait à ses victimes rencontrées sur internet un shooting photo. On y revient dans le journal de 8h.
Il est 7h09, alors cette année, 1, 2 ou 3 étoiles?
C'est la boule au ventre que les 500 chefs français réunis à Tours aujourd'hui attendent les annonces du guide Michelin. L'édition 2024 est dévoilée tout à l'heure au Palais des Congrès. Tout juste, sait-on que 62 établissements vont être promus, dont une première étoile pour 23 restaurants qui ont ouvert dans l'année, signe du dynamisme culinaire de la France, selon le guide. À Paris, le chef 3 étoiles, Éric Fréchon, s'apprête, lui, à quitter le Bristol, où il officie depuis 25 ans. Record de longévité sur laquelle Sébastien Sabiron l'a interrogé.
Je vais pas goûter la farce à macaroni, là.
Macaroni farcie aux artichauts, truffes et foie gras, c'est le plat signature d'Éric Fréchon.
À l'instant pareil, il y a plus de truffes que d'artichauts. C'est pour ça qu'ils sont bons, les macaronis.
Arrivé au Bristol, Bristol en 1999, Éric Fréchon propulse Épicure, son restaurant, au firmament de la gastronomie. Deuxième étoile en 2001, la troisième en 2009. Un tsunami, dit-il, mais pas une fin en soi.
Quand on a trois étoiles, c'est le début de quelque chose. En fait, il faut se remettre en question tous les jours, faire des essais, créer, ne jamais s'arrêter.
Car dans le cercle très fermé des chefs multi-étoilés, conserver ces trois macarons n'est pas une sinécure. Malgré tout, Éric Fréchon ne l'a jamais vécu comme une contrainte.
Moi, je n'ai jamais travaillé pour vraiment le Michelin. J'ai travaillé pour mes clients avant tout. Si je peux donner un conseil à un chef qui veut avoir une étoile, qu'il prenne du plaisir lui-même à créer ses plats pour en donner à ses clients.
Ça marche de caviar, de langoustes, de macaronis.
Cette année, Épicure, comme 114 Faubourg, la brasserie du Bristol devrait à nouveau figurer dans le palmarès Michelin, ce qui n'empêche pas le chef d'afficher une réserve toute normande.
Moi, j'aime bien voir toujours le guide sous les yeux et de voir mes trois étoiles à côté du nom Épicure. Pour moi, c'est important.
Après son départ du Bristol le 15 avril, Éric Fréchon se consacrera aux autres restaurants qu'il supervise avec deux ouvertures prévues à Biarritz et en Suisse.
Reportage Sébastien Sabiron. Fin du suspense en fin d'après-midi, 17h. Eux ont des étoiles plein les yeux, les supporters du PSG, avec ce compteur qui s'affole. Ce sont bien désormais 250 buts que Kylian Mbappé a marqué sous le maillot du PSG. Un triplé hier face à Montpellier pour permettre à son équipe de l'emporter 6-2. Mbappé a été exceptionnel. Il faut qu'on en profite tant qu'on peut, dit d'ailleurs l'entraîneur parisien. De son côté, Rennes a battu l'OM 2-0. Brest, toujours deuxième de Ligue 1 de football. Le football toile de fond de la nouvelle série La Fièvre, diffusée à partir de ce soir à la télévision. Le premier épisode démarre d'ailleurs sur une cérémonie de remise de trophées de foot et nous plonge immédiatement dans le monde très politique de la série d'Éric Benzekri qui, après Baron Noir, continue d'ausculter la société française et ses divisions. Alexandra Hakoun.
Lorsque Fodé Thiam, joueur de foot à la peau noire, met un coup de boule à son entraîneur un soir de cérémonie en l'insultant,
sale tout Bob,
autrement dit sale blanc, c'est l'emballement. Le club est contraint de faire appel à Sam Berger.
Mon métier, c'est communicant de crise.
L'influenceuse d'extrême droite Marie Kinski, elle, a trouvé une nouvelle vague de colère sur laquelle surfer.
Révélation. Ce qui fait nation, ce n'est pas leur veau d'or du foot à la gloire de la diversité. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble.
Après avoir devancé le réel dans Baron Noir, imaginant avant l'heure l'explosion de la gauche, Éric Benzekri nous bluffe à nouveau en s'intéressant aux fragmentations de la société française, avec pour caisse de résonance des réseaux sociaux avides de haine et de violence, une société où les communicants ont pris le pas sur les politiques. Le miroir qu'il nous tend est assez angoissant.
C'est les algorithmes qui sont en train d'imposer leurs normes dans la politique, dans les émissions de télévision, dans le sport, dans tout. On est en train de se découper en morceaux. Et au bout de la segmentation, il y a l'affrontement.
Heureusement, l'espoir a aussi sa place dans cette invitation à la réflexion sur notre époque, prête à s'embraser à la moindre étincelle, portée par une mise en scène qui ne nous laisse pas de répit, et des comédiens impeccables. Nina Meurice, qui joue la Spin Doctor, est une révélation. Anna Girardot est terrifiante, en fasciste sexy, sans aucun doute la grande série française de l'année.
La Fièvre sur Canal+, les deux premiers épisodes, c'est ce soir à partir de 21h10.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom. Aujourd'hui sur la nouvelle génération de centres commerciaux.